France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Une récente étude sur les survivants du conflit syrien a fait beaucoup de bruit. Les traumatismes peuvent laisser des traces sur les gènes et plus exactement sur l'épigénome. Ces modifications épigénétiques peuvent-elles se transmettre aux générations suivantes ? Après l'ère du tout ADN qui a culminé au début de ce siècle, l'épigénétique est désormais au centre de l'attention avec une profusion d'études. On a découvert que l'environnement, les polluants et notre alimentation par exemple, peuvent remodeler notre épigénome, cet ensemble de marques moléculaires qui influencent l'expression des gènes. Les traumatismes pourraient également laisser de telles marques. Mais peut-on transmettre un paysage épigénétique à sa descendance ? La question est épineuse et fortement débattue, d'autant plus qu'elle alimente des pratiques controversées telles que la psychogénéalogie. Épigénétique et traumatisme, l'hérédité en question. Valérie Mesguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS à la tête d'une équipe de recherche au Centre épigénétique et destin cellulaire à l'Université Paris-Cité. Nous sommes en ligne également avec Ariane Giacoboni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généticienne, anciennement professeur aux universités de Genève et de Pittsburgh et membre du Comité consultatif national d'éthique en France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur le fil podcast de l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Blue Sky @sciencesqfd. Tous les jours, on passe pour vous de nombreuses ressources complémentaires. Alors, quels sont les principaux mécanismes épigénétiques? Quelles sont les conséquences des violences sur l'ADN? Et comment étudier cette question de la transmission? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on remonte dans le temps. Le terme épigénétique est utilisé en 1942 par le généticien Conrad Ald Waddington pour définir ce qui est littéralement au-dessus de la génétique. C'est notre archi du jour, nous sommes en 1962.
Nous pouvons, en gros, si vous voulez, assimiler l'ensemble du patrimoine héréditaire à un énorme dictionnaire dans lequel seraient inscrits tous les termes qui permettent à une cellule de se développer pour fabriquer un homme. Dans ce dictionnaire, il existe donc des mots, et ces mots représentent, si vous voulez, les gènes. Lorsque une erreur d'impression, une erreur de copie, a produit un changement dans l'un des mots, on observe chez l'individu un trouble que nous appelons mutation. Ce trouble se reproduira au cours des générations, puisque les gènes se copieront indéfiniment, identiques à eux-mêmes. Si nous envisageons non plus les termes isolés, les gènes, si nous envisageons des têtes de chapitre qui représentent les chromosomes, c'est-à-dire les éléments sur lesquels sont inscrits un grand nombre, mettons un millier de gènes par chromosome, à ce moment-là, nous passons à l'échelle de la maladie chromosomique qui, elle, au lieu d'intéresser un gène, intéresse des centaines ou des milliers de gènes.
Voilà la voix de Jérôme Lejeune sur le patrimoine héréditaire en 1962 sur la RTF. Valérie Mesguer, voilà, la génétique, c'est la science de la transmission héréditaire des caractères.
Oui, effectivement. Je pense que la métaphore du texte est excellente. On peut aussi prendre la métaphore d'un livre de recettes de cuisine qui peut être également parlant, puisqu'en fait, on doit aboutir à partir d'ingrédients à un plat. Et tout à fait, on pourra peut-être revenir un petit peu sur ce que l'on comprend maintenant de la génétique qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on envisageait à l'époque et qui peut aussi influencer notre vision de l'impact de l'épigénétique.
Alors si on doit filer la métaphore du génome qui fonctionne comme un dictionnaire ou un livre de recettes, qu'est-ce que ce serait l'épigénome ?
Alors, l'épigénome, ce serait le fait que quand vous allez chercher la signification d'un mot dans un dictionnaire ou que vous allez chercher les mots les plus appropriés pour exprimer une phrase, donner une information, vous n'allez pas parcourir le livre de la page 1 à la page 860. Vous allez avoir des marques, d'une part, qui sont dans le dictionnaire, les A, B, C, D, etc., les lettres de l'alphabet. Et vous allez donc avoir des entrées privilégiées. Vous allez négliger un grand nombre de ces pages pour vous concentrer sur un nombre bien défini de pages. Et dans une recette de cuisine, de la même façon, quand vous préparez un dîner, vous n'allez pas faire toutes les recettes de A à Z. Vous allez, en fonction de vos hôtes, de leur régime alimentaire, de leurs préférences, choisir des recettes, mettre des marque-pages et pour pouvoir ouvrir au bon endroit, au bon moment.
À votre tour, Ariane Giacobino, de réagir, vous aussi, à l'écoute de cette archive. Il y a quelque chose d'intéressant, on l'a choisie, elle date de 1962. C'est une date particulière également dans l'histoire de la discipline.
De la discipline de l'épigénétique, vous voulez dire,
exactement.
Ou de la génétique?
Dans les deux, puisque finalement, l'épigénétique, c'est un peu la suite logique de la génétique.
Tout à fait. Alors, c'était, moi, je préfère l'explication de, enfin, je trouve plus visuel de penser à une partition musicale où finalement, quand on joue une musique, on suit les notes, c'est les indications que donnent les gènes pour fabriquer la musique, fabriquer la protéine, en l'occurrence. Et puis, l'épigénétique, ça serait l'interprétation, c'est-à-dire comment l'orchestre va jouer, comment tout ça est traduit avec différentes intensités, différentes sonorités sur une même partition musicale. Et puis, j'oublierai pas de mentionner que les gènes ou les mutations se transmettent avec des modes héréditaires. On reçoit qu'un demi-patrimoine génétique de chacun de nos parents et pas la totalité. Donc après, il y a des calculs de probabilité de transmission de certains caractères héréditaires ou de maladies.
Pour cette petite histoire de l'épigénétique, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on a fait la découverte que le support matériel de l'hérédité, c'est l'ADN, des chromosomes, puis on a fait la découverte de la structure de l'ADN et du code génétique, mais à la fin des années 70, on s'est rendu compte que les gènes, à eux seuls, n'expliquent pas tout, Valérie Metzger. Quelle est donc la grande question qui est à la base de cette discipline?
Alors la grande question, c'est que, comme soulevait l'archive, on part d'un embryon, une cellule, qui va se diviser, et donc toutes les cellules portent a priori la même information génétique et pourtant elles ont un destin très différent puisqu'on va fabriquer un organisme qui a des centaines, voire un millier de types cellulaires différents. Et donc en fait, on comprend bien qu'on va pas utiliser toute l'information génétique et même qu'on doit on va devoir ignorer une partie de l'information génétique pour ouvrir des sortes de programmes au cours du développement qui vont permettre de s'engager par exemple dans la voie de différenciation pour faire des neurones et ou bien dans la voie de différenciation pour faire des cellules sanguines ou des cellules musculaires et que cela doit être extrêmement orchestré, donc on revient à la partition, au cours du temps et dans l'embryon. Et en fait, un des gros problèmes, c'est qu'on imagine souvent l'ADN comme une ligne extrêmement accessible. Or, l'information génétique est majoritairement inaccessible parce que on doit faire rentrer un ADN qui mesure quelques mètres dans une noyau de cellules qui fait quelques microns. Donc, il est extrêmement compacté, extrêmement enroulé, on peut y revenir. Et en fait, il va falloir rendre accessibles certaines portions de cette information contenue dans l'ADN et au contraire rendre inaccessibles d'autres portions pour ouvrir un programme donné ou fermer un autre programme pour ne pas faire, pour faire un type particulier de cellules, par exemple des neurones, et ne pas engager un programme musculaire en même temps ou un programme hématopoïétique.
Pour l'épigénétique, Ariane Giacobino, il n'y a pas eu de découverte unique comme la double hélice de l'ADN. On peut dire que c'est un champ de recherche qui s'intensifiait depuis les années 70, mais c'était à ce moment-là encore très théorique. C'est surtout les années 90, 95 où le domaine s'intensifie.
Exactement, avec la découverte de non seulement des mécanismes épigénétiques, mais des différentes types de modifications épigénétiques qui tous ont en commun de changer l'expression des gènes, donc de la quantité de protéines qui va être produite. Mais on parle le plus souvent de la méthylation de l'ADN, qui est peut-être la mieux connue des modifications épigénétiques. Mais il y en a d'autres, les mécanismes de phosphorylation, de micro-ARN, mais de ce qu'on comprend actuellement, qui aboutissent tous à un changement d'expression en termes de quantité et pas de qualité de la protéine, qui serait une mutation.
Alors, comme vous dites, il existe plein de mécanismes épigénétiques, mais on en distingue trois principaux. Valérie Mesgard, pour revenir un peu plus en détail cette fameuse méthylation de l'ADN, qu'est-ce que cette modification chimique plus exactement?
Alors, c'est un groupement chimique qui va se déposer sur les cytosines, donc une des quatre bases de l'ADN. Et dans le contexte qui intéresse le plus notre sujet aujourd'hui, dans un contexte, ce qu'on appelle CPG, c'est-à-dire une cytosine juste avant une guanine. Et en fait, cette marque est déposée par des sortes d'écrivains, des enzymes épigénétiques, et est lue par d'autres protéines. Et ça va en fait provoquer cet enroulement. On va schématiser de façon absolument honteuse. Mais en fait, grosso modo, la méthylation de l'ADN, surtout dans les régions régulatrices des gènes qui vont donc permettre la lecture de l'information génétique contenue dans ces gènes ou l'interdire, va en fait provoquer un enroulement et donc une inaccessibilité de cette région.
Ariane Giacobino, donc si un gène possède beaucoup de groupes méthyl, ça veut dire qu'il sera peu exprimé, c'est ça ?
Exactement. On peut en faire presque une équivalence d'un gène rendu silencieux. Alors on sait qu'il y a toutes sortes de nuances, que c'est pas un phénomène on-off, mais plutôt comme un commutateur d'intensité. Si on écoutait la musique avec différentes intensités, mais on l'entendrait plus fort ou plus doucement, donc pas seulement allumée et éteinte. Et puis, j'avais envie d'ajouter le fait qu'on connaissait sans le savoir ce mécanisme épigénétique à travers l'inactivation du chromosome X. On sait que les femmes ont deux X, les hommes un X et un Y, et chez les femmes, il y a un mécanisme sur tout le chromosome qui permet de l'inactiver, de le rendre silencieux, une sorte de mise à égalité pour les chromosomes X entre l'homme et la femme, qui est aussi lié à des mécanismes épigénétiques.
Alors, deuxième niveau de modification épigénétique, Valérie Mesgard, c'est ce qu'on appelle la modification épigénétique de la chromatine.
Alors, comme je disais tout à l'heure, l'ADN peut être enroulé, et en fait, il est enroulé autour de, on va dire, un équivalent de petites bobines protéiques qui se nomment les nucléosomes et qui sont composées d'histones. Donc, c'est des sortes de petites bobines protéiques autour duquel s'enroule l'ADN. Et en fait, ces bobines ont des sortes de petits prolongements qui lancent dans le milieu cellulaire et comme des fils qui s'échappent des bobines et qui peuvent être également modifiés de façon chimique, comme Madame Giacobino le faisait remarquer. En fait, il peut y avoir des acétylations ou des méthylations de ces histones elles-mêmes ou bien des phosphorylations. Il y a à peu près une soixantaine de modifications qu'on appelle post-traductionnelles de ces protéines possibles, mais on en étudie finalement encore peu. Et il y a aussi un lien entre la méthylation de l'ADN et les modifications chimiques de ces petites bobines protéiques.
Ariane Giacobino ?
Oui, bah 100% d'accord. C'est tout à fait ça et c'est bien expliqué.
Et ce troisième mécanisme également, troisième mécanisme épigénétique qui utilise les ARN non codants, puisqu'il y a aussi toute cette partie il y a les ARN codants qu'on estime à peu près 1 ou 2% seulement, et puis il y a tout le reste qu'on a aussi appelé, d'ailleurs, c'était pas à juste titre, ADN poubelle. Ariane Giacobino.
Oui, alors ces petits ARN sont produits par des régions en principe non codantes de l'ADN, effectivement qu'on appelait l'ADN poubelle. Et finalement, ces petits ARN sont responsables d'aller réguler l'expression d'autres gènes. Donc on voit qu'il y a finalement plein de niveaux entre le code génétique et la fabrication de protéines, où toute cette adaptation de la production de protéines répond à des mécanismes qu'on connaissait pas et qui sont d'une puissance extraordinaire, puisque, comme disait Madame Metzger, ça permet quand même de changer la voie qu'une cellule va suivre simplement par ses modulations d'intensité d'expression génique et de produire une cellule d'un type ou d'un autre type.
Alors, qu'est-ce qui provoque ces modifications? Ces processus sont-ils réversibles, stables sur plusieurs générations? Et comment peuvent-ils survenir? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Valérie Mesguer et Ariane Giacobino, nous parlons d'épigénétique et d'une question qui ne fait pas consensus, son hérédité. On vient de voir que l'épigénétique, c'est l'étude des changements d'activité des gènes par une modification chimique de l'ADN, mais qui n'impacte pas directement le code génétique. L'ADN ne suffit pas à expliquer comment les gènes fonctionnent. Maintenant, quelle est l'importance de l'environnement, Ariane Giacobino, dans ces modifications ?
Eh ben, l'environnement permet en fait, ce dont on se rendait pas compte, mais de modifier justement l'intensité d'expression des gènes dans une sorte de tentative d'adaptation, c'est-à-dire que il va répondre à l'environnement par des modifications d'intensité de l'expression. Si je donne un exemple simple, c'est par exemple la floraison des plantes, il y a des mécanismes épigénétiques qui leur permettent d'adapter le moment où elles vont fleurir en fonction, on pourrait dire, de la météo ambiante ou du froid versus de la chaleur, de sentir un petit peu l'environnement pour mieux y répondre. Donc c'est un mécanisme, on parlera peut-être des problèmes liés aux modifications épigénétiques, mais extrêmement bénéfique pour suivre un peu les modulations de notre environnement dans toutes sortes de conditions.
Valérie Mesguer, quelle est donc l'influence de l'environnement ? Donc, il y a la nutrition, les polluants, le mode de vie, le stress, les infections. Quelle est l'influence de tout ça sur le remodelage de notre épigénome ?
Alors, je voudrais d'abord préciser que dans l'environnement, je dirais, il y a déjà l'environnement cellulaire physiologique, à savoir que il va y avoir des signaux qui vont être envoyés dans l'embryon en formation pour justement, à un endroit précis, dicter, je dirais, l'engagement des cellules vers un tissu, vers une spécificité de tissu, comme on disait tout à l'heure, neuronal, musculaire, etc. Donc, en fait, il y a des signaux qui doivent arriver à un moment donné dans un espace donné. Et évidemment, le système étant un intégrateur finalement de ces signaux, va être aussi sensible à des signaux environnementaux exogènes, je dirais pathologiques, enfin en tout cas capable éventuellement de perturber les signaux physiologiques. Et on va avoir à ce moment-là une perturbation des signatures épigénétiques, des marques chimiques déposées par ces enzymes de la chromatine. Finalement, la chromatine est ce qui représente, je dirais, l'assemblage de l'ADN et de ces petites bobines d'histones, perturber potentiellement les marques épigénétiques qui vont être lues du coup par les protéines qui les reconnaissent comme, et donc débobiner à certains moments, à certains endroits de l'ADN ou embobiner à d'autres endroits de façon non souhaitée, inappropriée l'ADN et donc de perturber par là l'expression des gènes dont effectivement on sait à quel point c'est un élément clé de l'identité de la cellule et de son devenir.
Par rapport aux facteurs extérieurs, Ariane Giacobino, c'est surtout l'exposition à des polluants, des substances toxiques qui sont bien mieux documentées que l'exposition à la violence. On y reviendra, mais ça, on a des conséquences. Quelles sont justement les conséquences de cette pollution sur l'épigénétique ?
Alors c'est principalement ça que j'ai étudié en parallèle au traumatisme, c'est que d'exposer et d'utiliser pour ça des rongeurs modèles, et je les exposais pendant la gestation à des composés type perturbateurs endocriniens pour voir la conséquence sur l'épigénome de la souris gestante, donc enceinte, et puis sur les petits issus d'une exposition prénatale à ces composés. Et c'est comme ça qu'on a pu ensuite, on va l'aborder je pense, étudier la possible transmission de certaines modifications épigénétiques, ou en tout cas le fait qu'on les retrouve au travers de 2-3 générations.
Alors ça, en effet, sur les questions de transmission, on va y arriver. Ariane Giacobino, déjà, quelles sont les conséquences sur l'épigénome des traumatismes ? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître ? Vous avez participé à une étude à l'aveugle sur ce sujet.
Oui, j'ai participé, j'ai eu la chance de participer à plusieurs études et je dois dire que la première, j'étais extrêmement dubitative, ayant l'habitude de faire des expositions très mesurées avec des perturbateurs endocriniens à telle dose, tel moment extrêmement précise. Et puis là, j'avais basculé dans une étude que je faisais, moi, je faisais les analyses épigénétiques à l'aveugle et il s'agissait de personnes qui avaient été maltraitées durant leur enfance, qui étaient adultes, et puis un certain nombre de gènes candidats dont on étudiait les modifications épigénétiques, en l'occurrence les changements de méthylation, ces gènes avaient été choisis, et je les analysais entre une population de cas contrôle non maltraités et cette population de personnes maltraitées. Et j'ai été la première stupéfaite, j'ai rendu mes résultats à l'équipe de psychiatres qui s'occupait de ce travail, et j'ai été la première stupéfaite quand on m'a dit que non seulement il y avait une différence statistique en termes de méthylation de certains gènes entre les cas et les contrôles, mais que cette intensité du changement semblait corrélée à la sévérité des maltraitances qui avaient été vécues. Et puis, il y avait une certaine logique, puisque parmi les gènes qui avaient le plus de modifications, il s'agissait d'un gène, d'un récepteur au glucocorticoïde, donc un gène impliqué dans la voie du stress. Donc, on y voyait aussi un mécanisme qui permettait de comprendre que ces individus étaient beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressés que leurs congénères qui n'avaient pas été maltraités.
Valérie Mesguer, sur cette corrélation apparente dans cette étude à l'aveugle.
Alors, je crois que ce sont effectivement des études qui sont robustes. C'est vrai que à la fois dans la trajectoire d'un individu exposé et dans une longue durée dans sa vie, on voit que des polluants, des toxiques comme l'alcool, effectivement des traumas dans la petite enfance sont associés à des marques épigénétiques et qui concernent des gènes, en particulier ce gène du récepteur au glucocorticoïde, ça a été également modélisé chez la souris. Dans une trajectoire d'un individu, oui, il y a des choses qui laissent à penser, en tout cas, qu'il y a une association très forte entre le dépôt de signature ou la perte de signature épigénétique et l'exposition au trauma ou voilà. Et nous avons une autre étude qui n'est pas encore publiée, que nous avons fait avec l'unité de Pierre Gressens à l'unité INSERM Neurodidro et dans ce cas aussi Vincent de Gausse, où nous avons étudié l'impact du trauma crânien dans les cellules immunitaires qui peuplent très tôt le cerveau. Et nous avons vu qu'il y avait une activation anormale de ces cellules qui sont très importantes pour le contrôle de l'activité neuronale. Elles étaient dans un état activé anormal. Et on a observé un bouleversement immédiat de l'épigénome et de l'expression des gènes, mais qui se rétablissait rapidement, avec cependant un locus en particulier persistait dans la modification de l'accessibilité de la chromatine et son expression et qui pourrait effectivement être une cible thérapeutique intéressante à long terme. Donc ça, je pense que chez un même individu ou en exposition in utero, donc on pourrait dire en intergénérationnel, je pense que les choses sont assez robustes.
Alors là, c'est peut-être le moment justement de faire le distinguo entre quand on parle de transmission intergénérationnelle et quand on parle de transmission transgénérationnelle. Ariane Giacobino.
Alors s'il y avait une transmission, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'obstacles pour penser que c'est une règle. Il s'agit plutôt de quelque chose d'exceptionnel. Il faut imaginer qu'il y a quand même des mécanismes de déméthylation entre les générations qui sont extrêmement importants. L'intergénérationnel, c'est quand finalement, admettons qu'une femme enceinte soit exposée, elle-même, son ADN est exposé, l'ADN du fœtus ou de l'embryon qu'elle porte dans son ventre, mais aussi les cellules germinales, c'est-à-dire les futurs spermatozoïdes ou ovocytes qui peupleront les ovaires ou les testicules de l'enfant à naître. Donc, comme ça, intergénérationnel, on voit qu'il y a une exposition directe au facteur environnemental, par exemple X, Y, Z, alors que intergénérationnel, il faut qu'il n'y ait plus d'exposition directe, donc que ça soit simplement passé par l'ADN sans que cet ADN-là ait été exposé.
Valérie Mesguer, donc transmission intergénérationnelle, c'est quand ça correspond à une transmission directe entre deux générations, et transmission transgénérationnelle, ça correspond à une transmission sur beaucoup plus, sur plusieurs générations.
Oui, comme le faisait remarquer Madame Jacobino, il faut que il y a beaucoup d'études qui se proclament transgénérationnelles, mais qui ne sont en fait qu'intergénérationnelles. Et en fait, il
à
faut
cause justement de cette exposition germinale qu'on vient de décrire,
voilà,
le fait
exactement.
Que dès la vie fœtale, dans le ventre de la mère, les ovules se forment chez l'enfant.
C'est ça. Et donc, en fait, seront aussi potentiellement impactés par le stress. Et donc, quelque part, si on considère qu'une mère, par exemple, est exposée, on va devoir arriver à la génération des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, si je ne me trompe pas, pour se dire ces individus n'ont pas été directement exposés à travers les gamètes qui les ont, les ovules, les spermatozoïdes qui les ont formés, par le stress. Et donc là, on va pouvoir voir s'il y a effectivement déjà des traits acquis, que ce soit des comportements, ou etc. Et parler éventuellement de transmission de marques épigénétiques.
Alors, on comprend. Est-ce qu'on retrouve les conséquences d'un traumatisme d'une grand-mère chez ses petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants? Ensuite, on voit donc toute la difficulté de prouver la transmission transgénérationnelle. Alors justement, pourquoi cette idée de transmission des marques épigénétiques est-elle si sujette à la controverse? Restez à l'écoute. Alphaville Next Generation, en direct sur France Culture, car nous parlons d'épigénétique. Les modifications épigénétiques peuvent-elles se transmettre de génération en génération? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour. Valérie Mesguer, directrice de recherche au CNRS, à la tête d'une équipe de recherche au Centre épigénétique et destin cellulaire à l'Université Paris-Cité. Et Valérie et Ariane Jacobino, médecin, généticienne, anciennement professeure aux universités de Genève et de Pittsburgh et membre du Comité consultatif national d'éthique en France. La transmission de formes de stress ou traumatisme par hérédité est une hypothèse qui s'étudie au niveau moléculaire en scrutant l'épigénome. Pour comprendre les mécanismes de mémoire cellulaire au niveau fondamental, vous êtes allé au sein de l'unité Intégrité du génome et cancer à l'hôpital Gustave Roussy, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, pour observer une mémoire à échelle moléculaire, il faut sonder les marques épigénétiques et observer si les signaux de méthylation qui inhibent l'expression d'un gène donné sont bien conservés. De telles marques devraient pouvoir se retrouver au niveau de la réplique de l'ADN au cours de la division cellulaire au niveau des histones et des chromatines. Éric Lecam, directeur de recherche CNRS au sein de l'unité intégrité du génome et cancer à l'hôpital Gustave Roussy, explique comment il est possible d'observer de tels marquages grâce à des techniques de microscopie électronique.
Là, vous avez de l'ADN, donc des structures particulières de fausse de réplication. En fait, pour garder de la mémoire, c'est-à-dire le marquage épigénétique, eh bien, en fait, on regarde s'il y a un maintien des machineries sur la zone considérée. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt cette hypothèse pour expliquer la mémoire d'un point de vue moléculaire, c'est que l'ADN est dans les territoires au niveau du noyau, et que ces territoires maintiennent les marques épigénétiques à l'intérieur de tout ça. Et comme c'est l'environnement qui est important, que la machinerie est là, eh bien, elle va copier la marque épigénétique au moment de la réplication de l'ADN. Donc ça, c'est d'un point de vue moléculaire et extrêmement fondamental qu'on peut caractériser ceci. Quand la cellule se divise, elle maintient, elle conserve l'information. Et effectivement, c'est le premier indicateur que les mémoires cellulaires existent, c'est-à-dire qu'une cellule du foie reste une cellule du foie au cours de sa division, ou c'est une souche en amont. Et donc la mémoire cellulaire, elle provient finalement de la capacité à reproduire un tissu cellulaire particulier.
Quand on parle par exemple de mémoire qui serait transmise, qui serait une sorte d'héritage de stress psychologique ou environnemental, comment on peut expliquer au niveau fondamental cette transmission alors qu'on sait que cette division cellulaire est aussi fléchée par des forces physiques, mécaniques ?
On sait, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'il y a des mécanismes qui sont conservés, mais le mécanisme moléculaire au niveau donc sur le système nerveux, ça reste finalement peu démontré. À savoir que les mécanismes moléculaires, on ne peut pas les visualiser réellement, enfin les analyser réellement, compte tenu de la nature du tissu nerveux, qui n'est pas forcément facile.
On peut mesurer les effets au niveau comportemental, par exemple, ou au niveau phénotypique ?
Oui, mais c'est là où il est dangereux, en fait, finalement, à la fois, j'allais dire, et je dis souvent que tout est épigénétique, mais il est dangereux d'extrapoler un certain nombre de résultats par rapport à ça. Il faut, à la fois la science a besoin d'émettre des hypothèses, mais elle a surtout besoin de les vérifier au niveau des cellules.
Qu'est-ce qu'on cherche au niveau cellulaire ? Quels sont ces marquages ? Servir de preuve ?
Alors, ces marquages au niveau des cellules, c'est l'acétylation ou la déacétylation des histones, la méthylation de l'ADN au niveau de ce qu'on appelle des îlots CPG. CPG, c'est que les lettres A, T, G, C sont les quatre lettres de l'ADN. Et donc, la méthylation de l'ADN est finalement ciblée sur des C qui sont suivis de G. C'est pour ça qu'on appelle ça CPG.
Et en fait, la méthylation, ça active ou ça inhibe ?
Alors, globalement, d'une manière générale, la méthylation inhibe l'expression. Ça rend inaccessible. C'est des petits drapeaux qui sont mis sur l'ADN et ça rend inaccessible l'accès aux machineries sur les cellules. Même s'il y a des interrogations sur certaines méthylations qui pourraient être ouvertes, qui pourraient avoir un effet inverse. Mais globalement, dans la majorité des cas, ça inhibe. Donc là, en fait, nous sommes devant un microscope électronique. Alors, c'est un microscope donc, qui fait à peu près 3 mètres de hauteur, presque 2 mètres 50, 3 mètres. C'est une grande colonne qui est faite en acier, dans laquelle on envoie des électrons. Pour celui-là, on les envoie pas très vite, on les envoie à 80 000 volts. Et on en a un autre à côté où on les envoie à 120 000 volts. Et en fait, on mène nos échantillons dans ce microscope électronique.
À ce niveau-là, en bas, à la base ?
Non, en haut. Donc on a ce qu'on appelle un sas d'entrée, où les grilles sont préparées et on met les grilles sur lesquelles on a déposé, en l'occurrence l'ADN ici, parce que c'est vraiment notre cœur de métier, dans cette colonne. Et on va pouvoir visualiser. Donc on a des grilles d'hexagones, où à peu près il y a 1200 hexagones dans la grille. Hein, c'est fait avec des structures en cuivre, sur lesquelles on va déposer un film de carbone. Et ce film de carbone va être fonctionnalisé pour déposer l'ADN. Et donc on peut voir l'ensemble de l'ADN et puis des machineries, des complexes ADN-protéines. Là, on a un mode d'observation très particulier qui nous permet de voir l'ADN. Je vais peut-être vous montrer ça. En tout cas, j'ai sur des posters où on voit les machineries de réparation. Donc on voit l'ADN avec donc des structures qui sont recouvertes de complexes. Et là, vous avez toute une partie qui est faite justement sur la chromatine, c'est-à-dire de regarder des nucléosomes. Alors on fait de la microscopie de force atomique aussi, qui est un autre moyen d'observation. Et on peut voir en fait finalement, à la fois à l'échelle du chromosome, au moment où la cellule se divise.
Oui, on le voit bien compacté.
Et on voit bien la compaction et on peut décompacter le chromosome et voir l'unité de compaction de l'ADN qui s'appelle donc un nucléosome.
Par exemple, la méthylation s'observe de cette manière-là, on pourrait voir une petite structure, ce petit drapeau.
Alors on a des outils, qui ont développé avec des anticorps sur la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire qu'on appelle ça des anti-méthylcytosines. Mais en tout cas, ce n'est pas la technique qui est utilisée dans tout l'ensemble des laboratoires. Et pour faire des études très, comment dire, sur des génomes, puisque ce qui nous intéresse là dans la discussion, c'est de caractériser la méthylation sur des génomes, on a des techniques de séquençage, c'est-à-dire de la biochimie extrêmement performante pour le faire. C'est un autre microscope électronique plus performant. Avec une meilleure résolution. Donc il y a une espèce de molette là, un joystick qui permet en fait de faire bouger. C'est très très précis, puisque là on est très rapidement à des grossissements de 200, 250 000 dans la colonne. On se retrouve à des grossissements environ entre 800 000 et 1 million en finale sur les caméras pour pouvoir observer effectivement l'ADN.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Valérie Mesguer, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Alors je trouve que c'est très intéressant d'avoir mentionné ces techniques de microscopie électronique pour voir les complexes protéiques et ADN de la chromatine. Effectivement, la plupart des laboratoires dont celui dont je fais partie utilise le séquençage à haut débit de l'ADN pour voir soit l'accessibilité de la chromatine, c'est-à-dire la densité de ces nucléosomes, soit la méthylation de l'ADN ou le positionnement d'autres acteurs. Et c'est vrai que c'est vraiment important de considérer que cette chromatine peut agir comme un convoyeur de l'information épigénétique pour propager à travers les divisions cellulaires des états soit actifs, soit inactifs de l'expression des gènes. Et c'est aussi important de se dire, puisque mon collègue mentionnait les neurones, que les neurones ne se divisent plus, n'ont plus de capacité de division, et qu'il faut garder leurs propriétés, en particulier maintenir l'expression génique tout en gardant aussi une plasticité dans ces neurones tout au cours de la vie, avec cet enjeu de maintenir cette chromatine, sachant que les neurones, ça mute beaucoup, en fait.
Voilà. Ariane Giacobino, une réaction vous aussi à l'écoute de ce reportage?
Un magnifique exemple de visualisation qu'on entendait décrit. Moi, j'ai travaillé aussi plutôt avec le séquençage, le pyroséquençage, c'est-à-dire qui permet de choisir plusieurs gènes cibles ou des portions entières du génome et de voir si les cytosines sont méthylées ou non méthylées à certains endroits sans a priori expérimental, ce qu'on fait actuellement, alors qu'à l'époque, dans les années 2010, on choisissait des gènes cibles et on voit que la technique a beaucoup, beaucoup changé pour le séquençage aussi. Donc, il fallait faire une hypothèse biologique avant de chercher à analyser la méthylation, alors que maintenant, on peut faire un génome entier ou les 22 500 gènes d'un coup et s'amuser à regarder lesquels ont subi une modification de méthylation liée à une exposition environnementale, par exemple.
Alors, on a parlé depuis le début de cette émission des facteurs qui peuvent provoquer des marques épigénétiques. On a fait le distinguo entre transmission intergénérationnelle et transmission transgénérationnelle. À présent, quels sont les obstacles de cette transmission épigénétique? Valérie Mesguer, on ne l'a pas encore tout à fait dit, mais voilà, on a des mécanismes d'effacement de l'épigénome entre générations.
Tout à fait. Donc, les spermatozoïdes sont extrêmement, ont des niveaux de méthylation extrêmement élevés. Les ovules ont aussi des taux de méthylation assez élevés. Et quand il va y avoir fécondation, l'embryon qui est l'œuf finalement qui est issu de cette fécondation va subir au cours des premières divisions une déméthylation extrêmement active. Donc on a un effacement quasi total des marques de méthylation. Et puis on va avoir dans une deuxième phase, à partir du moment où l'embryon va s'implanter dans l'utérus, une reméthylation qui va dépendre en fait des parties de l'embryon. Et il y a quelques cellules particulières de l'embryon qu'on appelle les cellules de la lignée germinale qui vont donc donner les spermatozoïdes ou les ovules et qui vont subir également une deuxième vague de déméthylation. Donc, on arrive, et ensuite, bien sûr, au cours de la vie, les spermatozoïdes, les ovules vont être méthylés. Mais on a deux grandes phases, effectivement, d'effacement, non seulement de la méthylation de l'ADN, mais aussi des marques d'histone, qui font que, chez les mammifères, c'est difficile, alors, on peut invoquer d'autres mécanismes, mais on pourra en parler, mais d'imaginer une transmission, en tout cas, le système a l'air d'être fait pour résister à ça. Alors peut-être qu'il y a quelques, je dirais, spots dans le génome qui résistent, mais encore faut-il le démontrer. Et par contre, je voudrais souligner que chez les plantes et chez les invertébrés, cette transmission intergénérationnelle a été démontrée de façon robuste et elle met en jeu finalement tous les acteurs d'établissement de la chromatine, que ce soit la méthylation de l'ADN, les histones, les marques d'histones, les ARN non codants, etc.
Donc pour les mammifères, ces deux phases principales de reprogrammation, deux vagues d'effacement des marques parentales, ça ce sont des mécanismes qui sont bien documentés, Ariane Giacobino, c'est une sorte donc de remise à zéro.
Tout à fait. Un reset de toutes les marques épigénétiques qui se passe, comme l'a dit Madame Mesguer, en deux étapes. Donc conceptuellement, c'est pour ça qu'on avait de la difficulté à croire et à comprendre, ce qu'on comprend d'ailleurs pas toujours, comment il est possible que des marques perdurent malgré ces vagues d'effacement. Et on comprend bien que ça serait pas possible de partir dans la vie en tant que embryon avec toutes les modifications épigénétiques portées par les gènes dont on a hérité de nos parents, qu'il faut partir avec une sorte de terrain vierge où les marques vont se réinstaller et donner des différenciations cellulaires et peut-être être soumises à des variations selon les environnements. Donc j'étais une des premières dubitatives, mais curieusement, j'ai dû me résoudre à accepter qu'il y avait persistance de ces marques. Je dirais pas transmission, parce que je sais pas, on ne sait pas comment c'est possible encore. Est-ce qu'il y a d'autres modifications épigénétiques qui permettent de maintenir les marques de méthylation? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on comprend pas encore? Mais de les observer, c'est des travaux que j'ai faits chez les souris sur 4 générations où j'ai retrouvé des marques épigénétiques liées à des expositions à des polluants.
Alors, on reviendra dans quelques instants sur ces travaux justement d'exposition aux polluants sur plusieurs générations de souris, Ariane Giacobino. Mais d'abord, avant ça, Valérie Mesguer, comment on peut imaginer finalement que cet effacement des marques épigénétiques n'est pas total?
Alors, je dirais que je voudrais souligner l'importance là des modèles animaux. D'une part, effectivement, malheureusement, nous avons encore besoin, pour certaines questions biologiques, d'utiliser des modèles animaux. Chez l'homme, la transmission transgénérationnelle, c'est très compliqué. Parce que déjà, il y a des facteurs de confusion, des facteurs confondants, ce qui fait que souvent, quand on est exposé à un stress, on n'est pas exposé qu'à un stress, on est exposé à toute une série de stress. Je pense par exemple à l'exposition à l'alcool, on est souvent exposé à aussi la consommation d'autres substances psychotropes. On peut avoir des difficultés socio-économiques, on peut rencontrer de la violence à la maison, etc. Donc déjà, c'est difficile souvent de recruter des cohortes. La base de recrutement des cohortes est difficile.
Puis en effet, il y a plein de stimuli.
Voilà, exactement. Et puis souvent, les enfants, enfin ou les arrière-petits-enfants, etc. On transmet aussi au cours des générations une dimension culturelle familiale, quand ce n'est pas même des cycles de violence, etc. qui font que c'est très difficile de dépiauter ça chez l'homme. Chez l'homme, tout à fait. Donc, effectivement, il y aurait vraiment dans les études épigénétiques la nécessité de grandes cohortes avec un recrutement très, très rigoureux, ce qui est compliqué.
Eh bien justement, ces études sur des humains de grande cohorte, on va parler de cette étude qui fait l'actualité de notre émission.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Valérie Mesguer et Ariane Giacobino, nous parlons d'épigénétique et de transmission éventuelle aux générations suivantes. Une étude qui nous a donné envie de faire cette émission, parue dans Scientific Reports le 27 février dernier. Une étude portée sur des survivants du conflit syrien. Le peuple syrien a vécu près de 40 ans de violence en continu. Les chercheurs ont donc réuni 48 familles sur 3 générations, 131 personnes en tout, qui ont vécu soit le massacre de la ville de Hamas en 1982, soit la guerre civile des années 2010, et pour le groupe contrôle des Syriennes qui ont quitté la Syrie avant 1980, qui n'ont donc subi pas d'événements violents majeurs. Ariane Giacobino, pour rentrer un peu dans le détail de cette étude, il y aurait, selon les auteurs, une signature épigénétique de la violence.
Oui, tout à fait. Donc, on est là sur un modèle dont on parlait avant, un modèle intergénérationnel, puisqu'on va avoir des grands-mères, des mères et des enfants. Donc, il y a eu des expositions pendant la grossesse, expositions dans cette situation en termes de violence, massacre physique, psychique, conflit. Et puis, il va y avoir prélèvement de sang, de salive, extraction d'ADN et analyse sur ces 3 générations de modifications épigénétiques. Ça a amené à mettre en évidence 35 régions dans le génome avec une méthylation particulière, différente de la méthylation dans le groupe contrôle, parce qu'il y avait des individus non exposés à ces traumatismes, violences, massacres et autres. Et puis, ils ont découvert que la majorité des changements de méthylation allaient dans le même sens, était présent chez les individus, mais on parle là bien d'analyse statistique. On parlera peut-être de la question des individus eux-mêmes, parce qu'un effet statistique, ça veut dire qu'on considère la cohorte dans son ensemble et pas au un par un. Et puis, en bref, cette étude a pu montrer qu'il semblait y avoir un impact sur l'épigénome du stress maternel vécu, donc de cette exposition à ces violences qu'on retrouvait sur la deuxième et la troisième génération.
Ariane Giacobino, avant de parler évidemment des limites de cette étude et de pourquoi il faut la prendre avec des pincettes, quelles étaient justement les conséquences de cette signature épigénétique ?
Alors, ils ont regardé, c'est là que c'est un petit peu décevant, parce que quand on regarde les gènes concernés par ces modifications, on ne trouve pas de lien directement compréhensible. On a par exemple un gène impliqué dans les échanges cellulaires, un gène, un oncogène, donc impliqué dans les processus de prolifération cellulaire, un gène d'apoptose, donc de mort cellulaire, mais on n'arrive pas à faire le lien théorique avec l'exposition à la violence. Donc, je dirais que le dessin expérimental est très beau, la cohorte n'est pas immense, on a quand même que 48 familles, mais c'est déjà une première étude importante sur ce type de population.
Valérie Mesguer, donc en effet, c'est une étude qui est intéressante, qui est importante, mais qui ne permet pas clairement de conclure ni d'extrapoler ces résultats.
Alors, je dirais que c'est une étude qui est quand même robuste, ils sont très rigoureux, ils sont très honnêtes sur les forces et les limites de leur travail. Et ils sont très honnêtes dans le sens où ils disent bien que c'est de l'intergénérationnel et pas du transgénérationnel. Alors ensuite, effectivement, ce qui est important, c'est de voir que dans la plupart des études, dans l'immense majorité des études, en fait, on fait une corrélation entre l'apparition de marques de signature épigénétique anormale et l'exposition à un stress. Mais il faudrait démontrer la causalité de ces marques dans, par exemple, les comportements que l'on peut observer, même dans des modèles animaux, enfin des modifications de comportement ou des perturbations du métabolisme, etc. Et donc, en fait, il faudrait, pour démontrer ça, il faudrait aller utiliser ces dérivés des ciseaux moléculaires, donc les ciseaux moléculaires qui ont valu le prix Nobel à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui permettent d'aller, corriger de façon très précise à l'endroit voulu dans l'ADN, par exemple, une mutation. On coupe l'ADN et on remplace pour corriger la mutation. Et là, en fait, on élimine la fonction ciseau et on ramène une enzyme épigénétique à l'endroit où on veut. Et là, on pourrait soit déméthyler, voir le retrait de la marque épigénétique ou l'ajout, s'il fallait la rajouter, pourrait avoir une causalité. Mais d'une manière générale, on a peut-être finalement ces marques épigénétiques qui sont déposées suite à une exposition pourraient peut-être être utilisées en tout cas comme biomarqueurs d'exposition, sachant que en tout cas en médecine pédiatrique on n'a souvent pas l'historique de l'exposition et que ce serait un moyen de diagnostiquer les enfants plus tôt, d'aider au diagnostic avec d'autres biomarqueurs. Et donc ça pourrait être important. Mais il y a peut-être un côté à la fois spécifique du stress, parce que là, ils ont l'impression, en tout cas, d'avoir pointé des marques épigénétiques spécifiques de la violence et également des marques peut-être plus générales. Certes, l'immense majorité est peut-être sans fonction, mais pourrait être peut-être importante si on est soumis à d'autres types de stress, comme malheureusement ces enfants l'ont été.
Donc pour résumer, on n'a pas montré de transmission transgénérationnelle, donc genre 4 générations ou plus, pour les traumatismes chez l'humain, Ariane Giacobino, et en aucun cas on a démontré jusqu'à présent que ces marques épigénétiques avaient un effet causal sur les traits génotypiques qui peuvent être transmis de génération en génération.
Tout à fait. Et puis, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'on se trouve chez l'humain avec la difficulté qu'il s'agit d'individus avec des patrimoines génétiques différents, même s'ils appartiennent au même groupe ethnique. Et que c'est là aussi que les études chez les rongeurs nous aident, parce qu'on arrive à avoir des animaux beaucoup plus similaires génétiquement, parce qu'on sait quand même que le fond génétique d'un individu peut modifier sa réponse, entre guillemets, épigénétique, c'est-à-dire le marquage qu'il aura. D'où l'utilité, dans certaines études, d'utiliser des jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux, dont l'un est exposé à quelque chose, l'autre ne l'est pas. Et après, on regarde sur un génome identique, en lien avec l'exposition, où se situent les marques. Donc, c'est d'assez jolies études qui sont possibles chez les humains, sinon.
Valérie Mesguer, pour conclure très rapidement, on est arrivé à la fin de cette discussion, mais voilà, il y a eu l'ère du tout ADN. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la démarche inverse, celle du tout épigénétique. On a même des shampoings épigénétiques. Comment regardez-vous ça?
Alors évidemment, il faut vraiment mettre un drapeau rouge. On utilise le terme épigénétique comme fourre-tout, littéralement, s'extraire d'un déterminisme génétique pesant. Et comme les mécanismes épigénétiques sont réversibles et qu'on connaît certaines molécules qui peuvent les réverser, on pourrait avoir l'espoir de réverser tout ça. Mais attention également quand on dit « Ah, c'est dans mon ADN !» Voilà, on passe d'un déterminisme à l'autre de façon non rigoureuse.
Bien, merci pour ce mot de la fin. Tout de suite, on écoute Alexandra Delbo, on enfile ses baskets, direction la salle de grimpe, c'est la chronique avec science.
Les salles d'escalade sont-elles polluées par les chaussons de grimpe? La pollution de l'air est un sujet crucial dans les environnements fermés et les salles d'escalade ne font pas exception. On sait que la magnésie en poudre, cette sorte de talc que l'on met sur les mains pour bien adhérer aux prises, génère des particules fines qui saturent l'air. C'est pourquoi il est souvent recommandé aux grimpeurs et grimpeuses d'utiliser de la magnésie liquide, bien moins volatile, pour diminuer la dispersion des particules. Mais cette pratique produit-elle d'autres polluants, notamment à cause des semelles en caoutchouc des chaussons? C'est la question que se sont posées deux scientifiques férus d'escalade. Thibaut Massé est l'un d'eux, il est chercheur post-doctorant au laboratoire central environnemental de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et co-auteur principal de cette nouvelle étude parue dans Environmental Science and Technology Air.
Moi, je suis donc grimpeur dans mon temps libre. Et puis, dans mon travail, je travaille sur les pneus et les particules de pneus et les additifs qui sont utilisés dans le pneu. Et bien, avec ma collègue, donc Anya Sharman, on s'est rencontrés lors d'une conférence. Et nous deux, travaillant sur les particules de pneus et sur les additifs qui sont utilisés, on s'est demandé si sur cette gomme de caoutchouc de chaussons d'escalade, qui, on le sait, s'use très vite sur les prises, s'il y avait en fait les mêmes additifs que dans les pneus. Et c'était vraiment une curiosité au début, purement un intérêt curieux sur cette thématique. Et puis, de fil en aiguille, en faisant une ou deux analyses au début, on s'est rendu compte que oui, il y avait bien les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes additifs dans les chaussons d'escalade que dans les pneus. Et puis, ça nous a amené à pousser un petit peu plus loin et à faire une étude entière qui est aujourd'hui publiée.
Ces additifs, dont certains sont déjà connus pour être des polluants de l'air, améliorent les performances. Le soufre, par exemple, permet la vulcanisation, ce qui rend le matériau plus élastique et moins plastique. D'autres substances protègent de l'oxydation ou des UV et prolongent sa durée de vie. En analysant une trentaine de chaussons différents en laboratoire, ces scientifiques ont identifié 15 additifs, dont certains sont également présents dans les pneus de voiture. Et ces polluants se retrouvent dans les salles d'escalade. C'est le deuxième volet de l'étude. L'objectif était de retrouver la signature chimique de ces chaussons dans les salles de grimpe, en Suisse, en France, en Espagne et en Autriche. Et les prélèvements ont été menés à trois niveaux, directement sur les prises, dans la poussière, derrière les voies ou encore dans l'air. Résultat, les additifs ciblés sont tous présents et se retrouvent partout, à des concentrations parfois comparables à celles relevées au bord des routes.
Ce qui était assez surprenant, c'est que déjà on avait donc les mêmes additifs, les mêmes substances dans nos chaussons d'escalade et puis dans notre air que dans les pneus par exemple. Et puis si on compare vraiment les concentrations dans l'air, là on peut se rendre compte que les concentrations dans l'air de ces salles d'escalade, en tout cas de certaines d'entre elles, sont similaires, voire supérieures à ce que l'on peut retrouver dans des grandes villes comme dans les grandes mégalopoles chinoises qui ont été particulièrement bien étudiées pour ce type de composés. Les concentrations nous ont surprises, elles sont quand même assez élevées. Et la grosse problématique qu'il pourrait y avoir avec ce sujet, c'est vraiment qu'on se trouve dans un lieu fermé, alors qu'en extérieur, il y a bien sûr une ventilation naturelle qui empêcherait tout risque, c'est-à-dire que les chaussons d'escalade s'usent également en falaise en extérieur, mais là, il n'y a aucune exposition importante lorsqu'on grimpe en extérieur, par exemple. En intérieur, c'est vraiment différent. Cet espace confiné est vraiment le point bloquant. Une ventilation moins bonne dans certaines de ces salles, un nettoyage qui peut laisser parfois à désirer, rend ces concentrations relativement élevées. Et on pense que les solutions se trouvent aussi là, c'est-à-dire avec une ventilation qui peut être parfois améliorée, un nettoyage plus fréquent, un changement des prises d'escalade sur lesquelles s'accumulent les particules plus fréquentes pourrait vraiment améliorer les choses.
Les effets sur la santé restent encore mal connus. L'additif le plus étudié est la 6-PPD et son produit d'oxydation, la 6-PPD quinone, désormais identifié comme responsable d'une forte surmortalité chez certaines espèces de saumon. Mais la suite de ces travaux portera sur l'humain. L'enjeu des auteurs et autrices de ce papier est à présent de travailler avec des toxicologues pour comprendre si, après exposition dans le milieu professionnel, les polluants passent ou non dans le sang, s'ils s'accumulent dans l'organisme ou s'ils sont métabolisés en une autre substance. En attendant, un autre levier d'action est possible chez les fabricants, cette fois, afin de réduire le nombre d'additifs, de diminuer leur concentration, voire de substituer certains composés dont la toxicité pourrait se révéler problématique.
Merci Alexandra pour votre chronique. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.